grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse, spéciale fête. Tout au long de la semaine, je vous propose de tordre le cou à quelques idées reçues sur Noël, la psychologie, nos comportements, la nutrition. Et ce matin, on débute une série de clichés de lieux communs sur la cuisine et la gastronomie. En voici un florilège, la cuisine anglaise n'a pas de goût, Marco Polo a importé les pâtes en Italie, cuisiner demande beaucoup de temps, pour faire un bon repas il faut des produits coûteux, il faut servir du vin rouge avec le fromage, les Italiens sont les plus gros consommateurs au monde de pizza et de panini, les Japonais mangent beaucoup de sushi, il faut mettre du citron sur les huîtres, il ne faut pas boire de thé le soir, et puis quelques idées reçues également sur quelques plats, la tarte tatin, les frites ou encore les macarons. Avec nous pour nous éclairer ce matin, les historiens Marie-Hélène Bellac et Florent Quellier, la journaliste Nathalie Hellal et le critique gastronomique Pierre Rival. N'hésitez pas à réagir ce matin sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rébi.
Bonjour monsieur. Je voudrais un melon au Porto. Après, je voudrais un œuf en gelée. Un maquereau aux aromates. Un foie gras en brioche, un écrevisse à la nage.
À la place du foie gras, monsieur?
Non, en plus. Non, c'est pas tout. Non, non. Et puis, alors, je voudrais aussi un rouge et grillé. Et après, je prends un poulet de Bresse à la française. Voilà. Et une tête de veau. Oh, non, une pièce de charolais, plutôt. Une pièce de charolais d'abord, et puis une tête de veau après. Voilà. Et dites-moi, la choucroute, elle est comment, chou?
Très, très bien, monsieur, elle, oui.
Alors, vous m'en donnez un petit peu, c'est juste pour goûter. Hein?
Bien, monsieur.
Merci. Si vous voulez faire vite quand même, parce que je suis assez pressé.
Entendez-vous.
Et j'ajoute au menu de Coluche dans L'aile ou la cuisse, une farandole d'idées reçues sur la cuisine et la gastronomie. Avec nous autour de la table de Grand Bien Vous Fasse, Marie-Hélène Bellac, bonjour.
Bonjour.
L'auteur de deux ouvrages de référence, Un repas gourmand à la française et Le dictionnaire gourmand chez Omnibus. Nathalie Hellal, bonjour.
Bonjour.
Journaliste et auteur de nombreux ouvrages de cuisine, Pierre Rival.
Bonjour.
L'auteur notamment du thé et du champagne pour les nuls, pas les deux ensemble, hein, Pierre Rival. Le thé d'un côté, le champagne de l'autre. Florent Quellier, vous êtes professeur en histoire moderne à l'université d'Angers et vous êtes l'auteur de La gourmandise, histoire d'un péché capital. Et avec nous, la candide de la semaine, j'ai pas dit l'ouravie de la crèche, Guillemette Audicino de France Inter et de Télérama. Vous allez nous poser des questions qui vous passent par la tête.
Oui, qui me passent par la tête et qui me donnent quand même déjà assez faim.
Alors, on va décortiquer ensemble quelques idées reçues autour de la cuisine et de la gastronomie. Mais avant ça, j'aimerais que Dominique Picard, professeur émérite en psychologie sociale, nous explique ce qu'est une idée reçue. Bonjour Dominique Picard.
Bonjour Ali, bonjour tout le monde.
Bon alors éclairez-nous, c'est quoi une idée reçue? On a besoin de vos lumières.
Bon bah écoutez, je vais essayer. Bah, les idées reçues, hein, y en a plein dans tous les domaines, vous allez en parler. On ne sait pas d'où elles viennent, mais elles ont toutes un point commun. En fait, elles se présentent toutes comme des vérités, alors qu'elles ne sont que des croyances, des opinions. Alors je m'explique bien sûr. Hein. Une croyance, chacun peut avoir la sienne, et puis on n'est pas obligé d'être d'accord, et ce n'est pas prouvé. Tandis que ce qu'on appelle une connaissance, qui est le contraire de la croyance, un savoir, c'est quelque chose qui a reçu des preuves de son existence. Alors, on peut se demander pourquoi on s'accroche à des choses fausses. Vous alliez me poser la question.
Ben oui, bien évidemment, Dominique Picard.
Eh ben, c'est que d'une part, affirmer des choses, dire qu'on sait, ben, c'est narcissiquement plus valorisant, hein. Donc, j'affirme la chose, moi je sais, et c'est plus valorisant que de dire, ah oui, je crois, ça fait un peu mou et ça fait sans culture. Et puis, beaucoup d'idées reçues fonctionnent, en fait, sont là pour renforcer une opinion et renforcer une idéologie. Je m'explique. Par exemple, il existe l'idée reçue de dire que l'intelligence, eh ben, on est intelligent ou on ne l'est pas, et qu'on est avec on est du verbe naître avec un niveau d'intelligence, et puis qu'on le garde toute sa vie. Or, c'est complètement faux. L'intelligence, ça se travaille. Si on travaille, on devient plus intelligent. Si on bosse pas, eh bien, on devient moins intelligent. Et finalement, pourquoi on s'accroche à cette idée-là? Ben, si on réfléchit bien, si on estime que c'est un don, que c'est quelque chose que certains reçoivent et pas d'autres, eh bien on forme une caste d'intellectuels qui est différent des autres. Et vous savez, quand on dit différent, on dit souvent supérieur à. Donc vous voyez que les idées reçues, elles sont souvent au service d'une idéologie d'un groupe donné, que ce soit un groupe social défini ou que ce soit une espèce de nébuleuse. Donc c'est pour ça que malgré quelquefois les preuves contraires qu'on leur apporte, elles perdurent.
Merci beaucoup Dominique Picard de nous avoir éclairé sur les idées reçues. Marie-Hélène Bellac, Florent Quélier, là je m'adresse aux deux historiens de la tablée. Les idées reçues pullulent dans le domaine de la cuisine, de la gourmandise, de la gastronomie, Florent Quélier.
Effectivement, c'est un domaine où on a énormément de mythologie de table pour toutes les périodes historiques, de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et ça fait partie effectivement de ces connaissances qui sont rassurantes parce qu'on a l'impression de savoir. Il n'y a pas de nuance derrière, mais ce qui est intéressant, si on travaille sur ces idées reçues, il y a souvent un substrat historique en fait. C'est-à-dire que ça fonctionne parce qu'il y a des éléments qui renvoient à une réalité ou quelque chose qu'on peut prouver. Et après, il y a un développement qui fait qu'on va sur quelque chose qui est de moins en moins crédible en fait d'un point de vue scientifique.
Marie-Hélène Bellac.
Oui, on peut donner des exemples. Pendant longtemps, on n'a pas mangé d'aubergine. L'aubergine, c'était la malagne sana, la plante qui rend fou, tout simplement parce qu'elle est à l'origine. Elle contient de la belladone, enfin c'est la même famille que la belladone, donc cette plante qui donne des petits fruits noirs qui peuvent être mortels. Donc au départ, l'idée n'est pas, je dirais, complètement fausse, et beaucoup d'idées reçues finalement correspondent à une époque, à la fin du 19e siècle, on lutte contre l'alcoolisme, du coup on conseille de boire du vin. Moi je me souviens d'avoir vu des affiches dans l'école de Jules Ferry avec l'homme qui ne boit que du vin, qui est beau, rose, ton visage, et puis l'autre à côté qui a bu de l'alcool fort à 40 degrés, alors là, qui est l'alcoolique pire. Bon, aujourd'hui, nos idées ont évolué, donc il y a bien effectivement un substrat, quelque part, à chaque époque.
Florent Quélier, je prends les albums d'Astérix, par exemple. L'alimentation sert à typer les Gaulois d'un côté et leurs voisins. Les créateurs d'Astérix, Uderzo et Goscinny, jouent avec les stéréotypes, les idées reçues liées à l'alimentation des pays voisins.
Alors l'alimentation est centrale dans les albums d'Astérix, ne serait-ce que avec le banquet final, mais dans le jeu des parodies qui est au cœur des albums d'Astérix, vous avez effectivement l'alimentation qui va servir à typer les voisins des Gaulois. Les Gaulois, donc ça représente la France, et la cuisine gauloise, c'est donc la cuisine française. Si vous prenez les Anglais, donc les Bretons, dans les albums d'Astérix, évidemment ils souffrent d'agueusie, évidemment le sanglier est bouilli, évidemment il est accompagné d'une sauce à la menthe. On met de l'eau bouillie partout pour donner du goût. C'est le seul album où Obélix refuse par deux fois de manger du sanglier, ce qui n'existe dans aucun autre album. Si vous prenez les Gaux, donc les Allemands, ils mangent charcuterie, du chou, ils boivent de la bière. Si vous prenez les Espagnols, ils proposent une alimentation adaptée aux touristes dans le cadre de cette ouverture de l'Espagne au tourisme dans les années 60-70. Donc à chaque fois, on a des informations sur comment on perçoit l'alimentation dans les années 60-70 et on joue sur la parodie et l'autoparodie parce qu'on se moque également des cuisines régionales françaises.
Et longtemps, une idée reçue a voulu que la gourmandise soit l'apanage des femmes et des enfants. Femmes et enfants qui partageaient, selon cette idée reçue, le goût pour les choses sucrées par exemple. Et ces idées reçues ont eu la vie dure.
Alors ces idées reçues ont eu la vie dure et on peut voir quand elles apparaissent en fait dans le discours gastronomique français. Cela apparaît dès les premiers pères fondateurs, Grimaud de la Reynière sous le Premier Empire et Brillat Savarin dans La physiologie du goût en 1826, où on explique qu'il y aurait une inaptitude congénitale des femmes à apprécier la bonne chair, à apprécier les saveurs qui nécessitent une éducation, le salé, la mer, etc. Alors que les femmes, comme les enfants, auraient une appétence particulière pour le sucre, et c'est totalement dévalorisé, que l'on va retrouver d'ailleurs dans cette idée reçue qui veut qu'il existerait une cuisine de femmes et une cuisine d'hommes. En fait, c'est pas pertinent de réfléchir comme ça, il faudrait mieux réfléchir en termes de cuisine domestique et cuisine professionnelle. Si vous prenez Anne-Sophie Pic, elle fait pas une cuisine de femmes. Chef étoilé. Mmh. Si vous prenez Alain Passard, il ne fait pas une cuisine d'hommes, ils font de la haute cuisine. Mmh. Et là, on est totalement dans les idées reçues liées au discours gastronomique français.
Et d'ailleurs, au XVIIIe et XIXe siècle, le personnel des grands restaurants était exclusivement masculin. On parle toujours de maître d'hôtel, de chef de rang, de maître queue.
Totalement. Quand les restaurants, au sens actuel du terme, les restaurants gastronomiques sont créés à Paris à la fin du règne de Louis XV, on imite le cérémonial de cour. Or, le roi de France est servi par des hommes. Et donc, dans les restaurants, les grands restaurants, le personnel en cuisine et en salle était uniquement masculin. Et ça va renforcer cette idée que l'homme est du côté de l'artiste, de la création, du génie culinaire, alors que la femme, ce serait la cuisine vraiment domestique. Alors ça commence à changer, notamment du côté du vin. De plus en plus, on a des femmes œnologues et qui sont réputées, hein, qui s'imposent dans cette profession. Du côté de la grande cuisine des chefs, c'est quand même encore, il y a encore une bataille à mener pour que les femmes accèdent.
Nathalie Elal.
Moi, il y a une idée reçue qui me semble essentielle, c'est qu'on a toujours l'impression que la malbouffe est une invention récente. Or, ça ne l'est pas du tout. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Par exemple, le pain. Si on prend le pain, l'aliment le plus basique qui soit. En réalité, le pain, pendant très longtemps, a été quelque chose de dangereux. Je reviens, par exemple, au Moyen-Âge, où il y avait cette maladie due à l'ergot de seigle, c'est-à-dire un champignons parasites qui se greffent sur les épis de seigle et qui donnent ce qu'on appelle le mal des ardents, le feu de Saint-Antoine. Et le pain est fait à base de ce seigle. On ne sait pas, on n'identifie pas ce champignon qui est l'ergot de seigle. Les gens sont victimes soit d'hallucinations, soit de gangrènes, soit d'ulcères. En tout cas, ils arrivent à des hallucinations terribles qui rappellent celles du LSD, puisqu'on a découvert ensuite que dans l'ergot de seigle, il y a un acide, une molécule qu'on appelle l'acide lysergique, qui est la même que dans le LSD, donc qui rend les gens malades. Et donc, ce pain a rendu malade finalement dès le Moyen-Âge et encore sous l'Ancien Régime. Donc finalement, la malbouffe n'est pas du tout une invention des 20 dernières années.
Beaucoup d'idées reçues circulent sur les mets jugés aphrodisiaques. Je me tourne vers vous, Pierre Rival.
Je ne suis pas un spécialiste.
On pense évidemment aux huîtres, aux asperges, au chocolat. Et une idée reçue veut que le champagne soit aphrodisiaque.
Ah bon?
Alors, ça, c'est guillemets odissino.
Votre réaction est une bonne réaction parce que.
Alors, si c'est une idée reçue que je connais pas, alors elle était moyennement reçue. Celle-là, moi, j'étais pas au courant.
Elle est très moyennement reçue. Je veux dire, l'expérience commune des personnes autour de cette table fait qu'au bout de 2 ou 3 verres de champagne, on a plus envie de dormir que de faire l'amour. Et c'est un cas, si vous voulez. Donc, il faut quand même doser. Entre une coupe et 10 coupes, si vous voulez, l'opération de la séduction, dans les deux cas et dans les deux sexes, risque de tomber à l'eau et on ira au lit, mais pour dormir.
Mais j'ai souvent entendu, Pierre Rival, cette idée qu'une petite coupe de champagne,
Marie-Hélène Bellac, vous êtes d'accord avec moi ? Une coupe, on est à l'aise.
Oui, mais ça marche avec n'importe quel alcool, alors.
Alors, ça marche avec n'importe quel alcool, mais disons que ça démobilise très vite les hommes.
Nathalie Lal.
Mais parce qu'en fait, dans le champagne, il y a une molécule qu'on appelle la bêta-carboline qui va en effet émoustiller et qui va être essentiel, d'où cet effet pseudo-aphrodisiaque du champagne. J'en parlais dans mon dernier livre, justement.
Redonnez la molécule.
Bêta-carboline.
Je crois que cette molécule est un effet quand même très passager, en réalité.
Allez, n'hésitez pas à réagir sur la page Facebook de Grand Mets Vous Fasse à la préparation de cette émission. Alexia Rivière et Antoine Vandeville, avec l'aide de Laura Laplot, à la réalisation Stéphanie Texier. Sure. Beatles.
Qu'est-ce qu'il y a de prévu pour aujourd'hui?
Un plat du jour spécial. Des rognons grillés comme tu les aimes.
Grand bien vous fasse.
Quand je vois ça, je revis.
Alors attends.
Sur France Inter.
Grand bien vous fasse, spécial idées reçues tout au long de la semaine. Et on débute avec quelques idées reçues sur la cuisine et la gastronomie. Il paraît par exemple que la cuisine britannique est totalement infecte.
Qu'est-ce que c'est?
Oysters à la parisienne.
Oui, ce sont des huîtres dans de la soupe au lait.
Ah, oh, ça c'est étonnant. C'est délicieux, delicious. Que c'est bon. C'est la tarte, ça?
Ah non, ça c'est le poisson, c'est du haddock.
Oh.
Oui. Et puis ça?
Ah ben la sauce, c'est une mayonnaise à la menthe. Oh, c'est bon la menthe. Attendez. Delicious.
Quel hypocrite, c'est Louis de Funès dans les grandes vacances. Florent Quélier, je rappelle que vous êtes historien. Et une idée reçue veut que la cuisine anglaise n'a pas de goût, qu'elle est infecte, immangeable. Et d'ailleurs, dans les albums d'Astérix, vous le disiez tout à l'heure, la cuisine grande-bretonne est une cuisine assez repoussoire pour Astérix et ses acolytes.
Effectivement, c'est une cuisine repoussoire, comme en Angleterre, la cuisine française est une cuisine repoussoire. Et en fait, cette idée que la cuisine anglaise n'aurait pas de goût remonte fin 17e, 18e, dans le cadre d'un affrontement entre deux modèles culturels. Le modèle culturel français, avec sa gastronomie, sa culture de table, culture politique et catholique.
Et ses cuisses de grenouilles.
Et ses cuisses de grenouilles, et ses escargots, et ses huîtres à l'écaille, etc., effectivement. Et de l'autre côté, une cuisine anglaise qui propose un autre modèle de société. Et on voit très très bien cette opposition dans une controverse que vous allez avoir en 1739 à partir de la publication d'un livre de cuisine français, Les Dons de Comus, qui commence par un avertissement où on intellectualise énormément l'art culinaire. On trouve que c'est un peu ridicule, même du côté français. Et la réponse, qui est une réponse française, est un pamphlet en 1739. Et le titre, c'est « Lettre d'un pâtissier anglois ». Qui est bien une façon de montrer qu'on s'oppose Angleterre d'un côté et Français de l'autre. Mais pour bien comprendre aussi le développement de cette idée reçue, en fait, on compare deux cuisines qui sont pas comparables. C'est-à-dire qu'on compare la grande cuisine française et la cuisine ordinaire anglaise. Ça, c'est un élément qui avait été mis en valeur par un sociologue anglais qui s'appelle Stephen Mennell dans Anglais et Français à table dans les années 80, où il montre bien qu'en fait, c'est un peu injuste cette comparaison et que si on compare ce qui est comparable, c'est-à-dire le même niveau social de cuisine, en fait, on peut avoir des approches assez différentes.
Marie-Hélène Bellac, historienne, sur le fait que la cuisine anglaise est réputée infecte.
Non, en plus, je pense que c'est une cuisine qui s'est beaucoup ouverte, même si le Royaume-Uni sort de l'Europe, il n'empêche qu'il a utilisé toutes les influences et aujourd'hui, on mange très bien en Angleterre. Je pense aussi qu'ils ont utilisé ce qui venait des colonies, en particulier de l'Inde, dont le thé, par exemple, mais pas seulement toutes les épices. Ils arrivent à une situation où on mange, comme je disais, très bien.
Voilà. Pierre Rival, critique gastronomique.
Dans la gastronomie anglaise, il y a même des traditions que nous n'avons pas et qui sont très intéressantes. Par exemple, je pense aux savouries. Les savouries, donc les savoureux, ce sont des fromages qu'on prend après le dessert avec un petit porto, un petit rérès. Et c'est absolument formidable. Moi, honnêtement, je regrette beaucoup que dans la cuisine française, on termine platement sur les desserts.
Platement, vous y allez
Rival. J'insiste, platement sur les desserts. Et alors qu'on pourrait exaucer sa bouche, si vous voulez, avec un très bon Stilton accompagné d'un succulent Porto.
Et sur un délicieux crackers.
Pourquoi pas?
Oui, parce que
osons le crackers.
Ils sont très très bons pour mettre le fromage sur des trucs. Nous, on met ça quand même bêtement sur du pain. Eux, leurs crackers, c'est quand même des folies.
Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est les inventeurs du sandwich. Et ce sont les rois du sandwich. Un dernier point. Au sein de la cuisine anglaise, comme vous le soulignez d'ailleurs très bien, il y a des oppositions. Et notamment, par exemple, au XVIIIe siècle, il y a eu un grand conflit sur le petit déjeuner. Parce que le petit déjeuner anglais, c'était le roast beef et la bière, et l'ale exactement. Et que l'élément féminin et raffiné de la société anglaise a dit « Bon, écoutez, vous êtes gentils, mais on va prendre plutôt du thé que de la bière le matin, et on va prendre des petits sandwichs, des petits savouries. »
Nathalie Elal.
Il compte quand même les Anglais parmi les inventeurs de la tendance green food depuis quoi, une dizaine d'années. Hein.
C'est quoi la green food?
Cette tendance à vouloir du vert partout dans son assiette, donc en quittant vers le végétarisme, clairement, ça vient aussi beaucoup de chez eux, même si ça vient de la côte ouest américaine, mais les Anglais, ils sont pour beaucoup, et ils ont beaucoup progressé bien avant nous, parce qu'il y avait déjà, il y a 15 ans, en Angleterre, notamment dans la capitale, à Londres, des restaurants green extraordinaires.
Pierre Rival, une idée reçue veut que les Anglais soient les plus grands consommateurs de thé au monde. C'est vrai ou faux?
Alors, les Anglais ont adopté le thé. Le thé fait partie de leur civilisation. Ils en boivent certainement moins que d'autres pays, comme par exemple les Turcs. Mais par exemple, je cite un exemple, il y a des pays producteurs de thé. Et l'Angleterre peut être considérée comme un pays producteur de thé, puisqu'ils l'ont acclimaté en Inde, ils l'ont acclimaté à Ceylan, ils l'ont acclimaté en Afrique. C'est eux qui ont assuré le développement international du thé en termes de production, pas forcément en termes de consommation. Et donc, ils l'ont adopté, ils l'ont mis dans leur manière de vivre, mais le thé, il est plutôt un thé qui appartient soit dans les classes supérieures, c'est le 5 o'clock tea, hein, et soit dans les dans la classe ouvrière, c'est ce qu'on appelle un thé qu'on prendrait avec le repas, hein, le repas du soir, c'est un thé fortifiant. Et ça m'amène d'ailleurs, j'en profite peut-être, j'espère ne pas vous couper l'air sous le pied, mais le thé pris le soir est excellent et a tendance à faire dormir. Pourquoi?
Ah bon?
Oui, je sais.
Idée reçue. Alors, c'est une idée reçue. Au moment où tu dis, il ne faut pas boire de thé le soir.
Alors, je vais vous dire pourquoi, et c'est la seule affirmation scientifique que je dirai au cours de cette émission, parce que tout le reste chez moi, c'est aussi de l'idéologie, croyez-le bien. je vais être très clair, hein, j'ai mes préjugés comme tout le monde. Mais en ce qui concerne le thé, la caféine qui est contenue dans le thé, il y a 7 fois plus de caféine dans le thé qu'il y en a dans le café, se diffuse extrêmement lentement. Donc prendre du thé à 5 heures comme font les Anglais, ça risque de vous amener à 2 heures du matin. Mais prendre du thé comme les Russes par exemple, ou comme personnellement je le prends, vers 19-20 heures, ça vous assure un sommeil de bébé, d'ange.
Bah, je vais essayer, Pierre Rival. Alors, il y a beaucoup d'idées reçues hein, sur ce que les autres peuples mangent. Par exemple, les Italiens sont réputés les plus gros consommateurs de pizza au monde. C'est vrai ou c'est pas vrai, Marie-Hélène Bellac?
Non, pas du tout. Ce sont les Américains, ensuite les Français, et seulement au troisième rang les Italiens. Et pendant très longtemps, la pizza a été un mets de pauvres. Hein, en Italie, c'est une spécialité de Naples. Et c'est d'ailleurs la reine Marguerite de Savoie, à la fin du 19e siècle, qui lui a donné ses lettres de noblesse en distinguant un pizzaiolo qui avait fait une pizza avec de la tomate, de la mozzarella et du basilic, les couleurs du drapeau italien. Mais il a fallu attendre les années 1960 pour que vraiment les Italiens considèrent ce plat comme un plat de leur patrimoine. Et d'ailleurs, maintenant, la pizza est classée. Hein. Mais ce sont les émigrés, ou plutôt les immigrés italiens en France et aux États-Unis, qui, à la fin du 19e, au début du 20e siècle, ont répandu la consommation de la pizza.
Guillaume Todicino, notre candide.
Oui, alors aujourd'hui, il faut qu'une pizza, ce soit une pâte ultra fine, que ça croustille partout, etc. Mais est-ce qu'au départ, la pizza, c'était pas chez les boulangers, des grandes plaques, comme ça, de carrés, avec de la pâte à pain épaisse, à peine tartinée de tomates et un bout d'anchois et terminé? Parce que ce qu'on trouve encore en Italie de temps en temps dans les boulangeries, c'est ça. C'est de la pâte à pain. Bon, à peine coloré, c'est sublime.
Qu'on trouve en France d'ailleurs, ce d'affois sous le nom de focaccia, même si c'est pas ça exactement.
Ou à mais côté de la pisse saladière à Nice.
Voilà, voilà. Au départ, c'est une pâte à pain, mais au départ, c'était vraiment fait avec les restes, c'était rien. Et puis, c'est vrai que la pizza classée est extrêmement homologuée sur l'épaisseur, ça va être très fin. La pizza classée est fine.
La pizza classée est fine, mais l'autre, elle est quoi, trop populaire alors?
Elle est considérée, elle est bonne, moi j'adore, je peux vous donner une adresse à Paris, on en trouve délicieuse. Mais voilà.
Alors les Italiens sont, paraît-il, les plus gros consommateurs de panini au monde, Nathalie Elal.
Bon, c'est pas vrai. Enfin, j'ai pas de chiffres à vous donner, Ali, je suis désolée, mais en fait, les panini, parce que ça vient de panino, hein, en italien, le pluriel panini, c'est probablement plus populaire en France depuis le début des années 90, quoique là, effectivement, ça a été beaucoup supplanté par les burgers ces dernières années.
Et les tacos.
Parce que en Italie, eh bien, les gens préfèrent manger sur le pouce une pizza al taglio, hein, ou bien la piadina, dont on n'a pas parlé, qui est justement ce que me faisait évoquer Guillemette tout à l'heure, cette pâte à pain, mais qui va être farcie, en fait, qui va être fourrée, donc c'est assez grossier, ça fait une sorte de sandwich en pâte à pain. C'est ça que les gens mangent à midi sur le pouce en Italie.
Florent Quellier, les pâtes ont vraiment été rapportées par l'exploration l'explorateur Marco Polo?
Alors ça, c'est une mythologie de table. C'est une erreur, mais qui est assez présente. En réalité, donc Marco Polo a été en Chine au XIIIe siècle, et on a dans nos sources la preuve qu'il y a déjà des pâtes en Italie au XIIe siècle. Donc, en fait, les pâtes ont été inventées dans plusieurs endroits de la planète sans qu'il y ait eu des contacts techniques. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on est capable de savoir d'où vient l'origine de cette légende de table, et on retrouve, comme par hasard, la diaspora italienne. Diaspora italienne qui joue un rôle essentiel dans les imaginaires autour de la cuisine italienne, en fait. On l'a vu avec la pizza. Et pour cette idée de Marco Polo, en fait, ça vient des États-Unis, des fabricants italiens de pâtes aux États-Unis, qui voulaient transformer la pâte en quelque chose d'un peu plus, avec un imaginaire un peu plus noble que l'aliment du pauvre. Il y avait cette idée que les pâtes, c'était lié à la pauvreté. Et donc, quoi de mieux que de trouver Marco Polo, de faire une référence à la Chine. Imaginez l'imaginaire qu'il y a derrière. Et ça a très bien fonctionné. Aux États-Unis, on a même eu des petites bandes dessinées qui reprenaient ses aventures, et ils ont même inventé un frère de Marco Polo qui est cuisinier à lui et qui revient et qui apprend à la mama comment on fait les pâtes.
Nathalie Elal.
En fait, les pâtes, elles viennent du monde arabe. Quand les Arabes vont conquérir la Sicile au 9e siècle, ils arrivent avec des pâtes sèches et ensuite ça gagne l'Italie.
Alors, un cliché veut que les Belges soient les plus gros consommateurs de frites. Nathalie Elal.
En fait, y a plusieurs écoles sur la frite, si j'ose dire, parce que côté français, on va plutôt soutenir que la frite est née sur les ponts de Paris en 1789, en pleine révolution française, et ça s'appelait plutôt la pomme pont-neuf. Alors ce qu'il faut savoir, parce que bien sûr les Belges sont pas du tout d'accord, ils disent qu'ils avaient ça bien avant, mais en fait il y avait déjà l'introduction de la pomme de terre quelques années auparavant. En fait, elle est apparue en 1771 grâce à Parmentier, qui a popularisé cette pomme de terre petit à petit, hein, ça fait son chemin. En 1785, il y a un grand banquet qui réunit le roi, la reine et plein de monde pour démocratiser cette pomme de terre. Et donc, eh bien, la frite serait née à peu près aux alentours de la Révolution. Et on trouve d'ailleurs sa trace dans un livre de cuisine paru en 1794 qui s'appelle « La cuisinière républicaine » de Madame Mérigot, où on trouve une recette de frites, enfin qui n'est pas appelée frites.
Florent Quélier.
Alors c'est un peu une idée reçue de mettre Parmentier au centre de cette histoire de la pomme de terre.
Et en fait, bim, Nathalie est là.
Je savais bien qu'entre deux historiens, j'étais cuite, mais j'ai tenté, j'ai osé, voilà.
Alors, Parmentier, en fait, a été mis en avant par l'école républicaine. C'est le héros qu'on met en avant dans les Lavis, etc. Quand on apprenait l'histoire avec les grandes figures. En fait, la pomme de terre est déjà consommée dans certaines régions françaises avant Parmentier, notamment dans l'est de la France, Vosges, Lorraine, etc. Et Parmentier, c'est un parmi d'autres. En fait, il y a beaucoup de Parmentiers en Europe qui essayent de promouvoir la consommation de la pomme de terre. Alors, sur la frite, il y a un débat. Si on revient sur Astérix, dans Astérix chez les Belges, il y a quand même l'idée que c'est Obélix qui donne l'idée. Donc, il y a un point pour les Gaulois.
Pierre Rival. Non,
simplement, la pomme de terre au XVIIe et même au XVIe siècle, puisqu'elle arrive d'Amérique, la pomme de terre, avait très mauvaise réputation en France. Et quand vous citez les Vosges, la Lorraine, vous citez des régions qui n'étaient pas françaises à l'époque. En réalité, on mangeait les pommes de terre en Russie dès le début du XVIe siècle. On mangeait les pommes de terre en Allemagne aussi. Elles sont arrivées là et elles ont été plantées parce que nous, on les donnait aux cochons.
Marie-Hélène Bellac.
Mais moi, je voudrais juste ajouter quelque chose. C'est que la pomme de terre, la frite au début, est une pomme de terre coupée en rondelles et qui est sautée au beurre. Oui. Et Grimaud de la Reynière, le premier, dit il faut manger quelques pommes de terre comme ça avec le beefsteak. Vous voyez, le beefsteak frite, ça remonte très loin. Et il faut attendre, disons, la deuxième moitié du XIXe siècle pour que la frite coupée en bâtonnets et frite dans un bain d'huile se répandent, parce que c'est le moment de la colonisation du Sénégal et la France, à ce moment-là, a beaucoup de... Enfin, peut apporter de l'huile d'arachide.
Guillemette Audicino.
Bon, pour une fois, les Américains, ils ont raison, ils appellent ça des French fries.
Ils ont raison.
Ils n'appellent pas ça des Belge fries.
Belgienne.
Voilà,
Belgium,
oui, on est d'accord.
Oh, c'était pour le principe. Non, mais moi, je voudrais juste poser une question, parce que c'est un truc que j'ai appris quand j'étais petite fille et je crois que c'est faux, en fait. Il paraît... Enfin, moi, j'avais appris que quand la pomme de terre a été implantée en France et qu'on a demandé aux paysans d'en planter, qu'ils s'étaient trompés, qu'ils n'avaient pas pensé qu'il fallait manger le bulbe, mais qu'ils avaient mangé les feuilles. Est-ce que c'est vrai ça ? Ou c'est, on m'a raconté ça quand j'étais petite, on m'a menti. Parce que ces plantes, quand même, qui sont des bulbes, où on mange ce qu'il y a dans la terre. Il faut quand même un jour dire aux gens que quand ça pousse, il faut manger la racine et pas le dessus, quand même.
Florent Quélier.
Effectivement, vous avez entièrement raison. Il faut apprendre à la cultiver. Maintenant, les paysans avaient l'habitude de semer, hein, donc ils n'ont pas consommé les feuilles. En revanche, ce qui a pu jouer, c'est que les premières pommes de terre qui sont arrivées, on a deux pommes de terre qui arrivent, hein, une par le sud, une par le nord, avaient probablement plus de solanine qu'aujourd'hui. Et donc, ça a probablement entraîné des troubles digestifs, ça c'est sûr. Ah. De même, il est très probable qu'on a pu consommer des pommes de terre germées, et d'où des troubles digestifs. Il est très probable également qu'on a consommé des pommes de terre qui étaient un peu vertes. Par contre, tout le reste, de dire que ça pousse dans le sol, donc ça fait peur, ça tient pas la route, puisque les paysans mangeaient des légumes qui poussaient dans le sol. Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique un jour pourquoi le paysan n'a pas peur du navet, n'a pas peur du panais, n'a pas peur du carotte et aurait peur de la pomme de terre. C'est n'importe quoi, là.
Marie-Hélène Bellac, un cliché veut que les Japonais mangent énormément de sushi. D'où vient cette idée?
Ah oui. Alors, en fait, le sushi est bien effectivement japonais. Et en fait, les sushis tels qu'on les connaît aujourd'hui, c'est-à-dire la boulette de riz vinaigré avec le poisson, ça date du 18e siècle et c'était une spécialité de la région de Tokyo. Et après le grand tremblement de terre de Tokyo en 1929, ces chefs japonais se sont répandus dans l'archipel et du coup, le sushi s'est, disons, répandu et avec lui ensuite, bon, aujourd'hui. Mais au Japon, il y a plus de restaurants de pâtes, hein, on parlait tout à l'heure les nouilles, que de restaurants de sushi.
Qu'on appelle udon.
Les udon, absolument. Oui.
Et le kebab, Nathalie Hélal, est-ce que c'est une invention turque?
Alors, c'est plutôt un émigré turc qui l'a inventé, mais c'est venu plutôt à Berlin en 1971. Vous voyez, c'est récent là aussi.
Mais c'est quand même un turc nommé Mehmet Aygun, oui, qui a eu l'idée de fourrer de la viande grillée dans un pain pita.
Oui, c'est bien lui. Mais enfin, c'est quand même né à Berlin. Donc, est-ce que c'est turc? Allez, c'est berlinois aussi. On va faire plaisir aux
Allemands.
Et donc,
c'est dans les années 70.
1971 exactement.
Merci beaucoup pour cette précision. Allez, on continue.
Mais je crois que le lieu existe encore. Je crois qu'il y a des gens qui vont à Berlin et qui cherchent l'endroit où le kebab a été inventé. Ça devient pratiquement un lieu de... Mais oui.
Il est fossilisé.
Un pèlerinage.
Il est fossilisé,
le kebab. Le premier kebab du monde, quand même. Surtout les ados, ça les met en joie.
Allez, on continue à évoquer quelques idées reçues sur la cuisine et la gastronomie. N'hésitez pas à réagir sur notre page Facebook.
toujours envie.
De toi j'ai 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 toujours envie.
Ah oui. Passion de gérer.
M interprété Super Chérie.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rébéi.
Grand bien vous fasse, spéciale idée reçue tout au long de la semaine. Et on s'intéresse aujourd'hui à quelques idées reçues, clichés sur la cuisine et la gastronomie. Florent Quélier, je rappelle que vous êtes historien. Alors, il y a une idée reçue qui vous agace un petit peu. C'est l'idée que les cuisines régionales soient très anciennes, très ancrées dans le temps. C'est un peu plus compliqué que ça.
Un peu plus compliqué, et surtout faut faire attention quand on parle d'authenticité, ça veut pas dire grand chose, de tradition, etc. Les cuisines régionales, en fait, en France, ce sont des inventions de l'époque contemporaine, 19e, 20e. Et on le voit, par exemple, si on prend les recettes dites traditionnelles, dites régionales, où on a énormément de plantes d'origine américaine, où on a une alimentation qui est très riche, très carnée. Donc ça correspond absolument pas à ce qu'on peut avoir au 16e, 17e, 18e. Et on a même la preuve que souvent ça passe par un jeu d'invention parisien et un regard parisien sur ce qu'on appelait les provinces, ce qu'on appelle les régions maintenant.
Les territoires,
par exemple la Normandie. Il y a une invention de la Normandie au 19e siècle comme espace touristique parisien. Et si vous prenez la sole à Normande ou le poulet Vallée d'Auge, en fait, ce sont des recettes parisiennes qui vont être servies sur la côte et qui passent pour... Normande, parce que il y a de la crème fraîche. Et la crème fraîche, c'est l'identité. Et c'est là où on revoit le substrat qui est essentiel pour les idées reçues. Je vais donner un autre exemple de plus de saison. On parlait des pommes de terre, la tartiflette, par exemple. La tartiflette, on a un nom qui renvoie à l'ancien, puisque tartiflette, ça revient à tartifle, le premier nom de la pomme de terre quand elle arrive au 16e siècle. Et la tartiflette, en fait, c'est une invention des années 1980.
C'était dans pour les relancer un fromage.
Pour relancer les reblochons, ouais. Et dans les stations de ski, mais c'est pas savoyard.
Marie-Hélène Bellac, historienne, vous confirmez ?
Ah oui, complètement. Je pensais justement donc aux stations de ski. On a comme ça beaucoup de plats qu'on croit très anciens. Et c'est vraiment le dernier quart du 19e. Hein. C'est vrai, l'invention des cuisines régionales. Et puis ça s'est beaucoup développé avec les guides touristiques. La Normandie, mais partout, hein, cette idée que dans chaque terroir, on allait trouver un plat spécifique.
Alors, en préparant cette émission, certains m'ont dit qu'ils voulaient tordre le cou absolument à des idées reçues sur la cuisine médiévale. Florent Quélier, je pense à l'usage des épices pour marquer la supposée mauvaise qualité des viandes.
Alors, pour un historien, c'est probablement la mythologie de table la plus énervante, parce que c'est la plus tenace. Moi, chaque année, j'ai des étudiants qui me reprennent ça. En dîner en ville, c'est très fréquent qu'on me parle de ça quand on sait sur quoi je travaille. Et c'est totalement faux. Les épices n'ont jamais été utilisées à l'époque médiévale pour masquer la mauvaise qualité des viandes. En fait, elles sont utilisées pour trois raisons. Elles coûtent cher, une dépense ostentatoire. Deuxième raison, des raisons diététiques. On pense que les épices facilitent la digestion. Troisième raison, un imaginaire ultra positif puisqu'elles viennent de l'Est et donc elles viennent probablement du paradis terrestre ou à proximité du paradis terrestre. Pensez à cette épice qui s'appelle la graine de paradis. Quant à la viande, les gens qui achètent les épices sont ceux qui peuvent s'acheter de la viande de qualité et la viande est consommée à l'époque médiévale beaucoup plus fraîche qu'aujourd'hui. Donc c'est réellement une légende de table.
Marie-Hélène Bellac, vous approuvez ?
Oui, absolument. Et ce qui est intéressant aussi, c'est l'évolution des épices. Parce que, par exemple, le poivre qu'on utilise beaucoup aujourd'hui n'est arrivé que tardivement, au 13e, 14e siècle. Il y a eu des modes des épices successives. Mais alors, en ce qui concerne les viandes, en fait, les mauvaises viandes, celles que consommait le peuple, puisqu'il y avait toujours un marché réglementé de la bonne viande, mais aussi les mauvaises viandes qui pouvaient être vendues en dehors de la halle, mais les gens qui les achetaient, ils n'avaient pas les moyens, effectivement, de s'acheter des épices. Donc, ils ne couvraient pas le mauvais goût.
Nathalie Elal.
Mais surtout, il existait au Moyen-Âge, bien plus que deux saveurs que le salé et le sucré que nous connaissons aujourd'hui, il y avait en fait 8 ou 9 saveurs. Et il y avait notamment, par exemple, la saveur suave, quand on incorporait du miel dans les plats, et à la place du sucre, hein, bien sûr, et puis la saveur âcre, et puis la saveur poivrée. Tout ça faisait partie de la gamme, de l'échantillonnage des saveurs médiévaux.
Moi, j'aime bien la saveur suave. Il m'étonne ici, non.
Et moi, j'aimerais bien savoir à quel moment, qu'est-ce qui fait que soudainement un épice est utilisé. Parce que quand même, il faut y penser, de prendre un poivrier, de décrocher un grain et de se dire, tiens, je vais mettre ça sur mon steak. Non, mais, non, ça fait rire Ali. Mais d'où un moment, quelque chose devient un aliment.
C'est une vraie question de Candide.
Pour des raisons antibactériennes, antiseptiques, par exemple, pour le poivre, vous citez le poivre a beaucoup contribué à conserver la charcuterie. Sans poivre, il n'y a pas de charcuterie. Enfin, il n'y aurait pas eu de charcuterie à l'époque, puisque le saucisson existe déjà dès l'Antiquité, et le poivre est un conservateur naturel, en plus d'être un exhausteur de goût.
Il y a tout un discours médical, effectivement, sur les épices, et qui est un discours très ancien, puisqu'on a quelques épices qui sont utilisées dès l'Antiquité, en fait. Et c'est un mouvement qui va durer pendant tout le Moyen-Âge.
Non, c'est maintenant de savoir du médicinal qui devient du gastronomique, alors, en fait.
C'est diététique.
Oui, c'est diététique. Mmh. Oui.
Au sens premier du terme diététique.
Le cumin, par exemple, sert à la digestion. Il aide à la digestion. Toutes les épices avaient une raison d'être sur la table et dans les plats. C'était pas du tout par hasard.
Maintenant, il y a l'empirisme. Il y a le premier qui a goûté, effectivement. Et ça, l'historien
ça,
ne peut pas
le trouver.
C'est dingue,
quand même. Moi, ça me fascine. Le premier qui s'est dit, tiens, c'est chouette, ce truc.
Non. En fait, c'est beaucoup plus facile pour nous de savoir quand on arrête de les consommer. Pourquoi? Que de savoir quand ça apparaît.
On dit que une demoiselle Tatin, un jour, en allant servir la tarte Tatin à ses convives, elle s'est aperçue qu'elle avait oublié de mettre la pâte. Moyennant quoi, elle est revenue en cuisine et elle a mis cette fameuse pâte sur le dessus de sa tarte au lieu de l'avoir mise en dessous.
Beaucoup d'idées reçues, Nathalie Hélal, sur les véritables origines de la tarte tatin.
C'est un enfumage journalistique magnifique, la tarte tatin. C'est un storytelling comme il n'y en a pas beaucoup dans l'histoire de la gastronomie, je crois. En fait, la tarte tatin, effectivement, elle vient de Sologne, de l'établissement de la Motte Beuvron où œuvrent les demoiselles tatin, ça on en est sûr. Mais en réalité, l'invention de cette tarte, enfin le storytelling, vient de Kurnonski, vous savez, ce célèbre critique gastronomique qui parcourait l'Hexagone dans les années 20 pour rédiger ses 28 tomes de la France gastronomique. Il a goûté cette tarte. On lui a dit que la recette avait été inventée par les deux vieilles dames qui tenaient, vieilles demoiselles qui tenaient ce restaurant. Il rentre à Paris et il a envie de faire un déjeuner de presse chez Maxim's pour inventer, pour raconter sa belle petite histoire solognotte. Il fait exécuter la tarte par le pâtissier de chez Maxim's et il raconte donc que la tarte serait née au 19e siècle d'une étourderie. En fait, il n'en est rien. Il semblerait que la recette avait été inventée par le père des deux demoiselles qui était pâtissier à Romorantin et il n'y avait pas de pâte au-dessus, c'était dans la recette d'origine, juste du beurre, des pommes et du sucre.
Nos deux historiens vous regardent avec beaucoup d'attention, Marie-Hélène Bellac.
Je me sens très surveillée.
Florent Quélier.
Non, c'est tout à fait exact. Non, mais ce qui me semble vraiment intéressant...
Vite l'aisselle.
Non, mais ce qui me semble particulièrement intéressant, c'est l'importance de l'histoire, en fait. Raconter une histoire. C'est-à-dire que ces produits ont besoin d'une belle histoire.
Oui.
Et cette belle histoire, c'est souvent soit une invention, une erreur, et donc qui permet après de lancer le produit, soit c'est la rencontre avec la grande histoire. Et donc, on va retrouver des Charlemagne, des Saint-Louis, des Henri IV, etc. Et je trouve que ça en dit beaucoup sur le rapport que les Français ont avec l'alimentation. Cette idée que c'est pas que des nutriments, c'est aussi une histoire partagée. Souvent, on a l'expression roman national qui revient assez fréquemment dans le discours des journalistes. Avec la table, on a ce roman national. En fait, on nous raconte une histoire de France aussi.
Mais justement, on parlait tout à l'heure des cuisines régionales et du storytelling autour de ces cuisines régionales. Et là, l'histoire de la tarte tatin, elle se situe juste après la guerre de 14 où justement, il faut le terroir va faire recette. On a besoin de cette authenticité-là. Et je pense que Kurnonski, ça ne lui a pas échappé.
Marie-Hélène Bellac.
Oui, justement, vous parlez de la grande histoire, parfois le recours à la grande histoire, c'est le cas pour la mayonnaise, parce qu'on a deux types d'origines. Certains, je pense à Carême ou à Prosper Mérignier, voient au départ de la mayonnaise des choses très simples, comme par exemple des formations du mot moyennaise, qui vient de moyeux, qui désignait le jaune d'œuf au Moyen-Âge. Et puis, d'autres, au contraire, ont recours à l'histoire. On dit que ce serait le cuisinier du maréchal de Richelieu, qui était un petit-neveu, qui n'avait rien à voir avec le grand Richelieu, qui aurait fait exécuter cette sauce après s'être emparé de la citadelle de Minorque, Port-Mahon. Et puis même, on raconte que trois années plus tard, en 1759, il aurait été à Bayonne, alors de mayonnaise, ce serait devenu bayonnaise. Vous voyez que le terme aurait été déformé. Donc on a, et puis il y a d'autres explications sur la mayonnaise, c'est extraordinaire. Vous voyez, on a bien recours à la grande histoire. Il faut une origine noble.
Pour faire monter la sauce.
Inventé. Oui. qui a inventé la mayo? On ne sait pas du coup alors qui a inventé la mayo.
Non, alors la première...
Parce que là, il faut quand même y penser mettre de la moutarde dans du jaune d'œuf cru et mettre plein d'huile dedans et touiller.
Il n'y avait pas de moutarde à l'origine dedans, je pense pas.
Je suis désolée, je reviens à l'origine du monde, mais se demander, mais qui a eu ce truc de faire couler de l'huile super longtemps quand même sur de la moutarde et du jaune d'œuf quand même.
Mais la première mention...
Et c'est génial, mais fallait y penser.
La première mention d'une mayonnaise qu'on a dans un livre, c'est pas du tout la sauce. En fait, c'est un poulet, un saumon et de la sole qui sont mélangés, qui sont dits en mayonnaise dans le cuisinier impérial de Viard en 1806. Et c'est pas la sauce mayonnaise.
Pierre Rival.
On trouve les mêmes incertitudes et en même temps, on a des éléments d'enquête qui permettent de préciser l'invention du champagne comme vin mousseux, entre guillemets. Parce que au 15e, au 16e ou même avant, le champagne, le grand champagne, c'était surtout un vin rouge. Et c'est les Anglais qui, probablement, c'est les vintners anglais de la place de Londres qui se sont aperçus que c'était un vin qui repartait en fermentation au début du printemps et qui donnait ce petit côté un petit peu mousseux, qui leur plaisait bien, d'autant qu'ils aimaient bien aussi des vins un peu acides, et que le champagne n'était pas forcément le plus grand vin que la France était en mesure de vendre, et qu'on avait donc ces vins un peu aigres, mais qui voilà avaient cette qualité d'être mousseux. Et il y a eu ensuite l'importance des bouteilles, parce que au XVIIIe siècle, environ un tiers de la production explosait. D'ailleurs, on rentrait dans les caves à champagne avec des masques en acier, pour ne pas se faire exploser la cave à la figure. Et c'est finalement un ingénieur français qui, en 1837, a inventé une machine à mesurer la pression du gaz dans les bouteilles. Et cette machine a permis d'industrialiser le champagne.
Florent Quélier.
C'est là où on voit ce que l'Angleterre a apporté à la gastronomie française pour revenir au discours qu'on a eu au tout début de l'émission. Et on le voit par exemple avec un des restaurants les plus célèbres à la veille de la Révolution, qui est le restaurant de Beauvilliers, mm-hmm. dont le titre est « À la grande taverne de Londres ». Et derrière la référence à Londres, en fait, il faut comprendre deux éléments. Un, flatter l'anglophilie des élites, puisque les Lumières sont favorables à un certain nombre d'éléments de la vie politique anglaise, mais également référence aux tavernes londoniennes qui servaient des plats raffinés aux lords qui siégeaient au Parlement. Et donc, dans cette institution très française qu'est le grand restaurant, il y a de l'ADN anglais.
Pierre Rival, si je vous dis les yeux dans les yeux que le vin rouge accompagne à merveille le fromage, c'est un gros cliché ou pas ?
Je me révolte. Non pas que des vins rouges ne puissent pas accompagner épisodiquement des fromages, mais...
C'est une idée reçue.
C'est probablement une idée reçue, mais je vais y opposer mon idée reçue. Hein, je ne cherche pas de ce point de vue-là. La gastronomie n'est pas une science exacte, et donc je vais simplement donner mon point de vue. En général, ce sont les vins blancs qui accompagnent le mieux le fromage, et après, en fonction du type de fromage, on va avoir des types de vins, par exemple, je dirais des vins plus minéraux sur les chèvres, jusqu'à des vins plus liquoreux sur des fromages persillés, si vous voulez. Et il y a toute une gamme, à mon avis. Et d'ailleurs, par exemple, pour le camembert, et dans l'esprit terroir dont vous avez mis en cause les racines idéologiques, on pourrait dire que le camembert est merveilleusement accompagné par un cidre. Et non pas, en tout cas, par un vin rouge. Quoiqu'un vin rouge un peu vieux, ou même très vieux, il m'est arrivé de boire un camembert avec un Château Margaux 1953.
Vous buvez le camembert, oui.
Non, manger un camembert. Je le prends.
Comme du petit lait.
Comme du petit lait, oui. À la cuillère. Quand il est très bon, on le boit à la cuillère. Et mais accompagné par un Margaux 53, ça va bien.
Vous avez les moyens, Pierre. Oui. Je suis désolé.
On l'a offert.
Marie-Hélène Bellac, j'aimerais qu'on termine, et Nathalie Elal également, sur l'idée reçue, selon laquelle, cuisiner demande énormément de temps. C'est quelque chose qu'on entend très souvent. Et pour eux, c'est une idée reçue, Marie-Hélène Bellac.
Oui, c'est une idée reçue. Ça demande de l'organisation, c'est sûr. Moi, je me souviens d'une époque où le dimanche, je préparais un grand nombre de choses pour le reste de la semaine quand je rentrais tard. Et puis, ça dépend aussi de ce qu'on veut faire. Hein, si on fait une recette extrêmement sophistiquée, un pâté en croûte avec dedans une première volaille, une deuxième, etc. C'est très long. Mais par exemple, je pensais, pour Noël, si on est pressé, qu'on rentre, on peut très bien faire en entrée une petite salade mélangée, trévise, endive, etc. avec une sauce à base de vinaigre Porto, un peu de moutarde et de la crème fleurette. Et ensuite, vous prenez du boudin blanc, vous enlevez la peau, vous coupez en rondelles, vous sautez au beurre et vous les posez sur votre salade. Vous avez là une entrée rapide, pas très coûteuse, parce que ça aussi, hein, on dit toujours que la cuisine coûte cher, ce qui n'est pas forcément vrai, hein, voire la pomme de terre, et une entrée facile à faire au dernier moment.
Nathalie Hélal.
Ce sont les plats préparés qui coûtent le plus cher, je rejoins complètement Marie-Hélène Bellac. Moi, je suis une mère de famille, j'ai 3 enfants, autant vous dire qu'il faut que je cuisine vite et bien. Donc pour moi, c'est un quart d'heure maximum le soir pour faire à dîner. Ça va très vite, c'est aussi une question de bien remplir ses placards, bien remplir son frigo, pour avoir toujours à portée de main aussi des recettes qui sont punaisées dans la cuisine et savoir exactement ce qu'il nous faut au moment où il nous le faut.
Mais moi, je crois qu'il y a un truc, en fait, on n'en parle jamais. L'idée reçue que c'est cher de cuisiner, l'idée reçue qu'il faut du temps. Et moi, je pense surtout qu'il faut de la place.
Aussi.
Non, mais les cuisines minuscules.
Alors, j'aimerais rajouter une chose. Pas besoin d'avoir 10 000 instruments, ustensiles de cuisine. Absolument. Ça, c'est vraiment... Moi, ça me met en rage quand je vois tout le monde aujourd'hui. Mais tu n'as pas un Thermomix? Ben non, j'ai pas de Thermomix et je cuisine très bien sans, pardon.
J'aimerais qu'on termine par une dernière, toute dernière idée reçue. Pierre Rival, il faut mettre du citron sur les huîtres ou pas?
Moi, je crois que le citron tue les huîtres. Ah, ouais. C'est un assassin. Ouais. Personnellement, je préfère accompagner les huîtres avec un tout petit peu de poivre qui va exaucer le goût de l'huître, le fameux goût de noisette que je recherche toujours un peu, mais enfin bon, il y en a qui disent qu'il y a un goût de noisette dans l'huître. Moi, je ressens surtout le goût de l'huître. Et honnêtement, noyer une huître dans du citron, c'est criminel.
Merci à tous d'être venus. Toute la bibliographie est disponible sur l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Demain, on poursuit cette semaine spéciale avec les idées reçues autour de Noël. Vous serez encore là, Guillemette Odissino, pour jouer la Candide.
Ça a l'air de vous faire plaisir.
Bah oui. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite un bon réveillon de Noël. Et si vous êtes seul, je vous transmets toute mon amitié. À la technique ce matin, Michel Bézikian. À suivre, Nagui et sa bande originale.